Bienvenue dans Pouce Classique, l'émission consacrée à la musique classique avec tous les genres, tous les styles et toutes les époques. Dans Pause Classique, l'émission consacrée à la musique classique. Ce soir, nous allons rendre hommage au grand chef d'orchestre disparu la semaine dernière à l'âge de 92 ans. Il s'agit de Bernard Haitink, un grand maestro qui a grandi, nous rappelle Christian Merlin pour le journal Le Figaro, qui a grandi dans l'ombre de Karajan et de Bernstein. Il a été pendant 30 ans la baguette de l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, où il s'est révélé l'être l'un des plus grands chefs de sa génération. Il s'est éteint à Londres en fin de semaine dernière. Et le journaliste nous précise qu'on avait l'impression de lui avoir déjà dit au revoir le 6 septembre 2019 à Lucerne, lors d'un concert à la tête du Philharmonique de Vienne. Il avait préalablement annoncé que ce serait son dernier avec la 7e symphonie de Bruckner, l'un des compositeurs qui aura le plus compté pour lui avec Mahler. À 90 ans, diriger était devenu trop éprouvant pour son corps affaibli. Bernard Haitink aura survécu 2 ans à cette retraite, avant de s'éteindre le 21 octobre dernier. Écoutons-le justement dans un extrait, le premier mouvement de cette grande 7e symphonie de Bruckner.
Thank you. just wanna.
Le premier mouvement de la 7e symphonie d'Anton Bruckner, dirigé ici par Bernard Haitink et les musiciens de l'orchestre de la Radio Philharmonique des Pays-Bas, un enregistrement qui fait référence, et Bruckner était un des compositeurs préférés du chef d'orchestre qui s'est éteint le 21 octobre dernier à l'âge de 92 ans. Nous suivons comme fil conducteur l'article hommage rédigé par Christian Merlin pour le journal Le Figaro. On nous apprend notamment qu'il y a longtemps eu un malentendu concernant Bernard Haitink, sous prétexte que cet introverti pudique n'a jamais pris d'allure de star et qu'il s'efface systématiquement derrière le compositeur. La critique a d'abord cru que l'on avait affaire à un tâcheron besogneux. Mais la profession de chef est à maturation lente et le monde musical a bien fini par être obligé de reconnaître qu'il était l'un des plus grands. La mort des derniers monstres sacrés comme Karajan ou Bernstein aura sans doute aidé à lui donner enfin toute la place qu'il méritait. Né à Amsterdam en 1929, il fait des études de violon pendant la guerre, profondément marqué par le départ de tous ses condisciples juifs qu'il jugeait meilleurs que lui. Le violoniste moyen qu'il était de son propre aveu est resté alors qu'il s'estimait beaucoup moins bon qu'eux. Il en gardera toujours un sentiment d'illégitimité. En 1954, il remporte un concours de jeunes chefs organisé par la radio néerlandaise qui lui vaut d'être repéré par le chef Ferdinand Leitner qui lui donne des conseils. En 59, à la mort prématurée d'Edward van Beynum, directeur musical de l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, le plus prestigieux du pays et l'un des plus beaux du monde, il est nommé à 30 ans à ce poste envié. Le petit ne sait rien faire, mais c'est un chef, dit de lui le manager de l'orchestre. Au début, on le sait, il est chaperonné par un maestro expérimenté, Eugène Jokum, mais assez vite, il devient seul maître à bord. Il apprend son métier. Un jeune chef est un mal nécessaire, dira-t-il plus tard. Grandit avec l'orchestre et reste juste en 1988, bâtissant un monument discographique pour la firme Philips. À son départ, il se tourne vers d'autres aventures, notamment lyriques, avec la direction du festival de Glyndebourne ou encore de l'opéra anglais le Covent Garden de Londres, même si ce grand symphoniste ne sera jamais tout à fait un chef d'opéra naturel. Anobli par la reine d'Angleterre en 1977, ce démocrate dans l'âme se lasse du côté élitiste de Covent Garden. En 2002, il reprend sa liberté pour se consacrer à nouveau au concert. Il développe alors des partenariats privilégiés avec quelques-uns des plus grands orchestres du monde. Pas une année sans qu'il ne soit l'invité du Philharmonique de Berlin avec lequel il reprend les symphonies de Mahler, dont il s'était fait une spécialité à Amsterdam, du Philharmonique de Vienne, de la Schatzkapelle de Dresde, de l'Orchestre symphonique de la Radio Bavaroise. Il se produit plusieurs fois à la tête de l'Orchestre de Paris avant de nouer une relation étroite avec l'Orchestre National de France dans les années 2000. Aux États-Unis, il est le premier chef invité du Boston Symphony Orchestra de 1995 à 2004, accepte de faire l'intérim de Daniel Barenboim à Chicago à partir de 2006. Sur ses vieux jours, il joue et il noue une histoire d'amour rafraîchissante avec l'Orchestre de Chambre d'Europe, reprenant les symphonies de Beethoven avec un effectif réduit et des tempi vifs et allants, estimant que, esclave de la tradition, il avait jusque-là toujours dirigé Beethoven trop lourdement. Voici un exemple comme quoi il est capable, justement, de ne pas diriger Beethoven lourdement, le final, célèbre grand final de la 9e symphonie de Beethoven, Bernard Haitink à la direction, et nous entendons tout de suite là aussi un enregistrement de référence. un large extrait de dernier mouvement de la symphonie numéro 9 de Beethoven qui convoque, vous l'avez entendu, un chœur ainsi que des solistes vocaux. Bernard Heitnik à la direction du Symphonie Orchester des Bayerischen Rundfunks, et c'est un disque qui était sorti en 2019 consacré justement à un enregistrement en live de cette 9e symphonie de Beethoven. Nous vous le disions, le chef grand maestro est décédé à l'âge de 92 ans la semaine dernière. Il était introverti, voire taciturne, nous rappelle Christian Merlin pour le Figaro. Heitnik n'en était pas moins un homme courtois et délicieux, aimé des orchestres, n'élevant jamais la voix. Il avait une solution pour chaque problème et sa sobre maîtrise était aussi patente en répétition qu'au concert, où sa gestuelle, idéalement claire et sans fioritures, n'était pensée que pour aider l'orchestre et non pour impressionner le public. Avec lui, rien ne venait s'interposer entre la partition et l'auditeur. Sa douleur n'allait pas sans une forme de détachement, avec un humour pince sans rire volontiers corrosif que l'on retrouve dans certaines répliques sans concession, comme « un chef a une date de péremption ». Humaniste, il n'avait cependant rien d'angélique et l'on sentait parfois poindre un certain désenchantement, par exemple dans cette réponse à son biographe Peter Hagman, qui le résume tout entier. « Croyez-vous que la musique ait le pouvoir de rendre l'homme meilleur ?»« Oui, sûrement, » répond-il, « mais pas pendant très longtemps. » Voilà, Post-Classique, c'est terminé pour ce soir. Dans un instant, vous retrouvez Atoxica, présenté par King Olivier sur Radio G, et puis sur notre radio, la suite des programmes de la nuit. On se retrouve dans 15 jours, je l'espère, en meilleure forme, vous l'aurez compris. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. We'll be right back.
seasoned vet with a gun to the sky, quadriplegics and a telescopic eye.
Radio G 101.5 FM.